On dit souvent qu'un premier accouchement dure une dizaine d'heures. Finalement, au bout de 10 heures, le bébé ne progressait pas. Et là commence une véritable épreuve, c'est-à-dire qu'on m'assoit, un infirmier se place derrière moi et fait pression sur mon dos de façon à ce que mon torse écrase mon ventre.
Claire garde un souvenir terrible de son accouchement en 2011. Elle a été victime de violences obstétricales. Derrière ce terme se cache une réalité longtemps passée sous silence. Les femmes qui accouchent sont parfois victimes de gestes et d'actes inappropriés ou abusifs de la part du personnel médical. Cela peut être une césarienne précipitée quand le bébé aurait pu sortir par voie basse, ou une épisiotomie alors qu'il n'y a pas forcément besoin d'inciser le périnée. Ce peut être aussi des propos déplacés ou blessants. En 2014-2015, des femmes ont témoigné de ces violences via Twitter sous le hashtag « Paye ton utérus ». Des récits d'accouchements traumatisants, mais aussi d'examens gynécologiques de routine vécus comme des humiliations. Après cette vague de témoignages, le Haut Conseil à l'égalité a rendu un rapport sans complaisance qui a secoué les professionnels de santé.
Très souvent, j'entends « oui, mais ce mot « violence obstétricale », il ne faut pas l'utiliser, c'est comme violence conjugale, ça veut dire qu'on fait des violences volontaires. Donc on voit bien que ce n'est pas digéré. »
Depuis la publication du rapport du Haut Conseil à l'égalité, les pratiques ont un peu évolué. Les taux d'épisiotomie et de césarienne restent toujours aux alentours de 20%, soit le double de ce que préconise l'Organisation mondiale de la santé. Mais le Collège national des gynécologues et obstétriciens français a lancé un label pour distinguer les maternités bien traitantes.
C'est le système du name and shame, donc on va changer les pratiques.
Comment finir avec les violences obstétricales? C'est un reportage de Faustine Calmel et Nicolas Mathias.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction.
Nous sommes à la maternité du Belvénère, c'est à Mont-Saint-Aignan sur les hauteurs de Rouen, une maternité publique où sont pratiqués chaque année environ 3000 accouchements. L'an dernier, le taux d'épisiotomie était de 11%, 13,5% pour les césariennes. C'est un établissement engagé dans la bientraitance et la bienveillance depuis de nombreuses années et qui a plutôt bonne réputation dans la région.
Je m'appelle Céline Grandmer-Coualden, je suis sage-femme cadre ici au centre hospitalier du Belvédère. Donc ici vous avez le bureau des sages-femmes.
Oui, c'est Mélanie en salle, c'est qui? Salut Marie, je t'appelle pour savoir si vous avez une chambre pour une césarienne.
Dans la journée, elles sont 4 sages-femmes pour une amplitude de 12 heures. Et la nuit, elles sont 3, il y en a une qui est d'astreinte à la maison, qui peut être sollicitée si besoin, en fonction des pics d'activité. Il y a un grand tableau qui récapitule toutes les salles de naissance, toutes les chambres de pré-travail, toutes les pièces aux urgences, pour qu'on ait une bonne vision globale de tout ce qui se passe en ce moment.
Et là, du coup, je vais remonter mon accouché en salle 6, il y a la dame en 5. Que j'ai déclenché Saint-Aude, c'est la deuxième part en termes d'épaisse. Et pour le moment, elle n'a pas encore sa péri.
C'est qu'elle a un col de doigt, hein.
Ouais, elle va pas tarder à réclamer sa péri.
Ok.
T'as Colline qui est installée en salle 4, il y a une extraction.
D'accord.
Avec Bruno, et il y a la pédiatre qui est là, mais il y a les troubles du rythme et le liquide.
D'accord.
Il y a la dame en salle 3 qui a la dilatation complète.
Ça y est, ah oui, du coup, elle va faire les deux accouchements
elle va
enchaîner
à la suite. Les deux naissances. D'accord. Ensuite, il y a une dame en chambre 13 qui est en début de travail, mais qui pour le moment va aller dans le bain.
Ok, tu m'en passeras une après, parce que moi, elles ont accouché les miennes.
Ouais, voilà.
Je vais ouvrir la porte. Bonjour, très bien. On passe en salle de naissance.
On est donc dans la salle numéro 5, salle d'accouchement, avec...
Charlotte.
Simon.
Et c'est votre...
Deuxième.
Deuxième,
ouais.
D'accord. Et pourquoi ici?
On a surtout entendu du bien du Belvédère.
En fait, pendant un moment, on était plus dans le nord de la France et j'ai fait des fausses couches au début quand on voulait. Et j'ai mal été accueillie, en fait. Donc j'avais un peu peur de la maternité où j'allais accoucher.
Et quand vous dites mal accueilli, c'était quoi ?
La première fois, en fait, j'ai fait une fausse couche à 12 semaines, je crois, et en fait, ils m'ont renvoyé chez moi sans aucun intérêt, quoi.
La deuxième fois, elle a failli se faire transfuser parce oui. qu'ils l'ont renvoyé chez elle alors qu'en fait il en restait encore à l'intérieur.
Ouais, alors que la fille m'a dit que j'étais venue pour rien.
Quand on est revenu à Rouen, là ça s'est mieux passé.
Et les personnes m'ont bien accueilli et m'ont dit bah non, ils auraient jamais dû vous laisser repartir. Et puis bienveillant en fait, c'était ça qui. Et ça, c'est. ça fait du bien. C'est vachement stressant en fait.
Ouais, ça apporte de la confiance, donc forcément on pense plus à ce qui pourrait arriver de mal, on pense à ce qui pourrait arriver de bien, quoi. Donc on est confiant, on est joyeux, on n'a pas peur de ce qui peut se passer, quoi.
Ouais, on n'est pas laissé à l'abandon. C'est horrible de dire ça, mais dans certaines maternités, en tout cas dans le Nord, les personnes que je voyais, elles avaient ce sentiment-là en fait. Et quand elles racontaient leur accouchement, c'était un moment horrible pour elles. Alors que non.
Ce qu'on entend là, c'est quoi ?
C'est le bébé. Ouais.
Eh ouais, c'est vous.
Je t'ai demandé, c'est un garçon ou une fille ?
On sait pas.
Vous savez pas ?
Surprise.
Et c'est une fille la première.
Ouais. Oui. La première, on savait, là, on a voulu avoir la surprise.
Bon, bah merci beaucoup.
Et
merci. Bonne continuation.
Vous aussi.
Merci. Bonne journée.
Plusieurs femmes ont accepté de nous raconter leur accouchement et les violences qu'elles ont subies. Nous sommes venus rencontrer chez elles, en région parisienne, celle que l'on appellera Claire, parce qu'elle ne veut pas être reconnue. Elle a accouché en 2011, elle en garde aujourd'hui encore des séquelles.
J'ai accouché en septembre et début août, on me dit « ce serait un gros bébé, plus de 4 kilos ». J'ai un petit gabarit, un petit bassin. J'exprime mes inquiétudes, comment est-ce que je vais être capable de passer à un bébé de plus de 4 kilos ? Et ma gynécologue, à ce moment-là, me dit « je sens la tête, si la tête passe, tout passe ». Les spécialistes que j'ai vus ensuite, après l'accouchement, m'ont rétorqué « non, le problème ne se situe pas au niveau de la tête, ça bloque toujours au niveau des épaules ». Alors pour revenir au moment de l'accouchement, j'ai perdu les os à 1h30 environ du matin. On dit souvent qu'un premier accouchement dure une dizaine d'heures. Finalement, au bout de 10 heures, le bébé ne progressait pas. On me descend pour une césarienne. Et la gynécologue, à ce moment-là, dit « non, donnez-moi les forceps ». Et là, commence une véritable épreuve, c'est-à-dire qu'on m'assoit, un infirmier se place derrière moi et fait pression sur mon dos de façon à ce que mon torse écrase mon ventre. Donc là, le diaphragme est écrasé, on n'arrive plus à respirer, on se sent extrêmement fatigué et on se sent véritablement en perte de contrôle, comme un pantin, une marionnette. On n'arrive plus à réagir. Après coup, je me suis dit, j'aurais dû dire stop, j'arrête de pousser, je n'en peux plus. Et finalement, je n'étais plus du tout maître de la situation. Et ma fille finit par sortir. Elle est en vie, heureusement, mais sur le moment, je n'y crois pas. Elle est groggy, elle a le visage tuméfié, une balafre du haut de la tête jusqu'au milieu de la joue. Je fais une hémorragie. Et là, après, les choses sont très floues. Je me souviens qu'on me demande si je souhaite être transfusée ou pas. Mais incapable de prendre de décision, je dis non, ce qui était une erreur d'ailleurs, parce qu'après j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à récupérer. En plus de tous les autres dommages musculaires et articulaires qui se sont déclarés après.
On peut jeter un œil à votre dossier d'accouchement que vous avez sorti ?
Alors c'était un dossier justement que j'avais fait dans le cadre de ma procédure. Donc il y a un certificat médical du médecin qui me suit depuis de très nombreuses années et qui m'a beaucoup aidée d'ailleurs à me reconstruire. Ma reconnaissance de travailleur handicapé, que j'ai eu beaucoup de mal à faire, elle est restée au fond de mon tiroir pendant très longtemps.
8 ans après oui. cet accouchement, vous gardez encore aujourd'hui des
oui,
séquelles ?
Oui, des séquelles lourdes. Je suis réellement handicapée au quotidien pour les tâches de tous les jours. Faire un peu de ménage, faire des courses. Quand je suis retournée voir ma gynécologue après l'accouchement, je lui ai dit que ça s'était très très mal passé, que je gardais des séquelles. À ce moment-là, je ne savais pas que ça allait durer si longtemps. Et elle m'a rétorqué... Un bébé de 4 kilos, mais quelle idée!
Vous avez envisagé d'avoir un autre enfant?
Je ne peux plus. C'est-à-dire que je suis fertile, mais d'un point de vue musculaire, je ne pourrais pas le garder.
Les violences que vous avez subies au moment de votre accouchement, vous pensez qu'elles viennent d'où? Est-ce que c'était intentionnel? Est-ce que c'était un manque de moyens? Est-ce que c'était de la précipitation?
Non, il n'y avait pas de malveillance ou de volonté de me faire souffrir. Non, mais un manque de prévoyance, oui, certainement. Et peut-être que c'est aussi dû au regard que l'on porte sur le corps, même, de façon générale. Quand on va chez le médecin, passer des examens et que tout à coup, on a le sentiment d'être un objet. Et la personne n'est plus prise en considération.
Interception.
Hashtag paye ton utérus.
Fin février, accouchement traumatique, seul pendant des heures, puis avec 7 personnes qui arrivent d'un seul coup au son de « Votre bébé va mourir », forceps, épisio, déchirure complète. Tout ça sans péridurale.
Un mois après, je vais voir ma sage-femme parce que j'ai très très mal. Et de là, elle me dit que j'ai été refermée un point de trop, ce qu'on appelle le point du mari, pour que mon vagin soit plus serré.
On accouche, c'est péridural, c'est sur le dos, ventouse, forceps si ça vient pas au bout de 10 minutes, épisiotomie parce que bah, si ça passe pas, on coupe. Puis on m'a rien demandé, quoi, je veux dire, c'est mon corps, merde.
Hashtag paye ton utérus.
Sur France Inter.
Ce sentiment d'être dépossédé de son corps, on le retrouve chez toutes les femmes qui témoignent de violences gynécologiques et obstétricales. Ces violences regroupent un large spectre. Un toucher vaginal mal vécu, une césarienne précipitée, une épisiotomie sans en être informée. Alors que ce n'est pas neutre de se faire inciser le périnée, surtout pour sa vie d'après, sa vie de femme. Et depuis quelques mois, avec l'épidémie de Covid-19, de nombreuses maternités imposent le port du masque aux femmes qui accouchent, même à celles qui n'ont pas de symptômes. Le partenaire n'est pas forcément admis en salle de naissance. Et ça aussi, c'est une forme de violence.
Bonjour.
Namasté.
Nous retrouvons Faustine Calmel en compagnie de Marie-Yvonne Blondin. La sénatrice du Finistère a rendu un rapport en septembre 2019 au Conseil de l'Europe dans lequel elle détaille ce que sont les violences gynécologiques et obstétricales.
C'est vrai que la définition de violence est intéressante parce que ça peut aller une violence orale avec des paroles blessantes. Du type « Oh, bien sûr, vous pouvez pas pousser, vous êtes trop grosse ». C'est aussi le manque d'informations sur les actes qui vont être faits. Ça, c'est également quelque chose d'important parce que les femmes sont entièrement livrées aux mains des professionnels. Et quand on leur dit pas ce qu'on va faire, ça les stresse d'autant plus. Il y a aussi ce qu'on peut caractériser comme des refus d'accès à la péridurale en disant « ben non, maintenant c'est trop tard, vous auriez dû l'accepter avant, c'est de votre faute, voilà ». Et puis d'autres actes qui sont faits de façon très brutale, sans prévenir. Et je pense que c'est peut-être pas l'intention de faire mal de la part du professionnel, c'est une réaction qu'il a rapide pour justement prévenir quelque chose qui ne va pas bien, etc., sans prendre le temps de parler à la future maman et sans la mettre dans un climat de confiance. Ça, ce sont des actes considérés comme violents.
Est-ce qu'il y a des cas où on peut plus facilement se retrouver dans cette situation où on est victime de ces violences, ou finalement ça peut concerner tout le monde à tout moment ?
Ça peut concerner tout le monde. Il suffit que dans un service de maternité, vous ayez plusieurs accouchements ensemble et pas assez de sages-femmes, de personnel. Les personnels sont dans une obligation d'aller d'une chambre à une autre. Elles ont des conditions de travail qui sont quelquefois difficiles. Les conditions de travail, d'accueil des femmes est aussi un facteur qui rend la violence plus palpable.
Vous évoquez aussi dans ce rapport, Marie-Yvonne Blondin, il y a un mot qui revient, c'est le paternalisme.
Ah oui.
Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est aussi à l'origine de ces violences ?
Je pense que c'est aussi à l'origine, mais sans cette intentionnalité de violence. Il y a dans la formation des médecins le professeur qui vous enseigne ceci, les touchés vaginaux. J'ai été, moi, assez surprise de savoir que les touchés vaginaux pouvaient se faire sur n'importe quelle femme qui était endormie pour une opération autre que les examens gynécologiques.
Ça a encore cours aujourd'hui ?
Ça avait cours. J'ai rencontré des professionnels, médecins, qui me disent que c'est comme ça qu'ils ont appris à faire, sans se poser la question. Est-ce que c'était bien du niveau de l'éthique ? Il y a des formations maintenant différentes pour justement intégrer le respect, la dignité de la femme. Et à partir de là, il faut qu'ils se remettent un petit peu en cause. C'est vrai qu'ils ont une grosse responsabilité et vraiment, je ne peux pas jeter l'opprobre sur cette profession. C'était pas du tout mon intention, mais de leur faire prendre conscience du ressenti de la femme. C'était pas leur intention d'agir de cette manière-là, mais c'est le ressenti que peut avoir la femme et un ressenti qui peut rester dans la mémoire et avoir une influence après sur le postpartum et évidemment sur aussi l'enfant, parce qu'il faut pas oublier le bébé après.
Nous venons d'entendre la sénatrice Marie-Yvonne Blondin, autrice d'un rapport devant le Conseil de l'Europe en septembre 2019. Mais un an auparavant, un autre rapport, celui du Haut Conseil à l'égalité, avait donné un grand coup de pied dans les pratiques de la gynécologie et de l'obstétrique.
C'est une grande avancée qui devrait nous permettre de progresser tous ensemble.
Merci Madame la Ministre de m'avoir invité en tant que président du Collège national des gynécologues obstétriciens. Je pense véritablement qu'on ne peut faire que les choses ensemble, que si on se dispute ou si on bâche une profession, eh bien on va encore dégrader la situation.
Ce rapport n'a plus de légitimité.
Je pense, Madame, que c'est l'exemple même de ce qui se passe quand on veut faire les choses contre les médecins. Nous souhaitions.
Ce rapport, il a bousculé de nombreux soignants et aussi le Collège national des gynécologues et obstétriciens français. Nous avons rendez-vous avec son président, le professeur Israël Nizan.
Bah non, c'est fini.
J'ai reçu ce rapport de manière très ambiguë. D'une main, je savais bien qu'il y avait ce genre d'acte dans notre profession. De l'autre main, je me rends compte que 95% des obstétriciens et des sages-femmes font un travail remarquable, ne comptent pas leur temps et ne comptent pas leur labeur, et que jeter l'opprobre collectivement sur une profession parce que quelques-uns ont des comportements déviants, déplacés, inappropriés et condamnables, jeter l'opprobre sur toute une profession était contre-productif.
Ce rapport, il est arrivé donc en juin 2018, après beaucoup de témoignages qui ont été rapportés sur Twitter, ça remontait à 3 ans auparavant, avec ce hashtag « paye ton utérus ». Comment est-ce que les soignants, et en premier lieu les gynécologues obstétriciens que vous représentez, ils ont vu arriver ce sujet dans le débat public ?
D'abord, il était utile que les femmes quittent leur emprise par rapport à la structure hospitalière médicale et qu'elles soient à même de dire « ben là, on m'a fait une remarque qui était inappropriée, là, on m'a fait un geste sans me demander, là, on ne m'a pas expliqué ce qui se passait ». Je trouve que ce mouvement-là de libération de la parole des femmes, vous imaginez bien que je ne peux que m'en réjouir. Maintenant, en revanche, si vous me demandiez avec une baguette magique, pourra-t-on un jour faire en sorte que plus aucune femme ne soit bouleversée, voire chahutée, voire déprimée après son accouchement, je vous dirais que non. Les complications, l'attitude des équipes, la manière dont on a pu réagir, le confort pour travailler, tout ceci entre en jeu pour expliquer qu'il y a des femmes mécontentes de leur accouchement et qu'il y en aura toujours.
Au-delà des situations que vous décrivez là, il peut y avoir aussi, et c'est ressorti dans ces témoignages, des paroles blessantes, des actes inappropriés. Ça, c'est aujourd'hui minoritaire ?
Alors, le rapport dont vous faites état est une concaténation de plusieurs histoires particulières. Et je regrette toutes ces histoires. Je regrette aussi que parfois, des médecins ou des sages-femmes dans le feu de l'action, lâche une parole inappropriée ou mal comprise par la patiente. Mais nous n'avons pas de mesure de ce phénomène de la maltraitance dans les hôpitaux. Si vous me demandez quel est mon sentiment, j'aurais tendance à vous dire que c'est moins de 1% des opportunités de rencontre entre le corps médical et les patientes. Si vous demandez à certaines associations qui regroupent ces témoignages, elles vont vous dire que c'est 10-20%.
Sont les mêmes que pour la première séance. Vous vous souvenez que ce que je vous ai dit, c'est que l'intéressant, c'est que nous échangions ensemble. Donc, dès que vous avez quelque chose à dire, vous ne vous retenez pas. Que vous soyez ou pas d'accord avec moi, ce n'est pas un problème. Au contraire, je dirais que si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est même plus intéressant. Mon idée étant de vous donner des pistes qui peuvent nourrir votre réflexion personnelle et votre cheminement de futur professionnel. D'accord.
Parmi les associations qu'évoque Israël Nizan, il y a le CIAN, Comité interassociatif autour de la naissance. Certains de ses membres interviennent dans les congrès et les formations de soignants, comme ici, à l'école de sages-femmes de Lyon, où Anne Évrard, coprésidente du CIAN, dispense un cours à des élèves de troisième année.
Donc, pour vous, qu'est-ce que c'est que le consentement ? Pour vous, quelles sont les difficultés de ce consentement ? Les limites, voilà. Qu'est-ce que ça vous dit ?
Oui ? Je pense que déjà, au lieu d'arriver vers la patiente et de lui dire « Madame, je vais vous examiner », ça peut simplement passer par le fait de lui dire « Est-ce que vous me permettez de vous examiner ?»
Oui, d'accord.
En lui expliquant ce que ça implique derrière.
Oui.
Moi, je trouve que des fois, dans les situations d'urgence, justement, on oublie le consentement et on ne demande pas forcément à la patiente si elle est d'accord, par exemple, pour qu'on lui fasse une épisio ou quelque chose comme ça.
D'accord. Dans quelles circonstances on doit s'intéresser à cette question du consentement ? Comment ça se passe concrètement ?
Bon, on demande la permission et on doit expliquer ce qu'on fait pour que ce soit un consentement éclairé.
Voilà. Ça, c'est intéressant. Parce que, spontanément, vous liez le consentement à une explication, donc à une information. Vous l'avez lié au fait d'être peut-être dans des situations où c'est plus difficile, où on n'y pense pas. L'urgence. Mademoiselle avait dit que en fait, c'était peut-être un changement d'attitude, hein, qui est de « je vais vous faire », et là on informe de quelque chose, « est-ce que vous me permettez ?» qui remet la personne dans la boucle. Si on parle de remettre la personne dans la boucle, qu'est-ce qu'il faut comme condition pour qu'on soit dans le cadre du recueil d'un consentement? Oui.
Ben, il faut que la personne elle, ait eu donc, toutes les informations nécessaires pour qu'elle puisse elle-même établir un choix après un certain délai de réflexion.
Oui.
Et après s'exprimer et dire oui, je veux, non, je ne veux pas.
Ça, donc, c'est le domaine de l'information. Qu'est-ce que ça implique aussi?
On peut donner l'information, mais pas forcément la comprendre. Donc, du coup, il faut adapter son vocabulaire. Il faut que la personne soit consciente aussi et puisse vraiment comprendre ce que ça veut dire, cette information.
Oui.
C'est pas tout évident.
Quoi d'autre?
L'influence aussi, il ne faut pas influencer la personne parce que des fois dans notre intonation on peut avoir tendance à l'inciter à dire oui en fait, même sous forme d'une question. Et du coup le consentement dans ce cas-là ça revient à la capacité à la personne de pouvoir dire non avant de pouvoir dire oui.
Oui, on peut regarder ce que dit le texte de loi, hein. Donc ça c'est l'article fondateur.
Anne Évrard fait ici référence à la loi Kouchner de 2002 sur le droit des malades. Ce texte pose le principe du consentement libre et éclairé des patients.
Je vous propose d'écouter celui qui a donné son nom à cette loi, Bernard Kouchner. Nous l'avons interrogé cet après-midi.
Selon la loi, on n'a pas le droit de soigner les gens malgré eux. Qu'est-ce que ce serait? Rendez-vous compte le contraire. On irait faire n'importe quoi sans le consentement de n'importe qui. Non, c'est pas possible. C'est fini, terminé.
Consentir, c'est une étape dans le fait de construire un parcours de soins. Et la loi Kouchner, elle est très claire sur le fait que c'est le patient qui prend les décisions pour sa santé. Donc, le consentement, ça fait partie d'un processus global où quelqu'un s'empare d'informations qu'on lui a données, il les confronte avec ce qu'il a envie, ce qui lui fait peur, ce dont il a besoin, et après, il consent ou pas à un parcours de soins, à un acte, voilà.
Ce consentement, aujourd'hui, il est encore loin d'être respecté partout.
Oui, parce qu'en fait, je pense, moi, qu'il est mal compris. Le consentement, il est vécu avant tout comme un traçage médico-légal. C'est-à-dire, c'est vécu comme la preuve que le médecin a bien accompli le devoir dont il a la tâche.
Un moyen de se protéger en cas de problème.
Oui, ou même de montrer, avant même la protection, de montrer qu'il a bien fait ce qu'il avait à faire. Alors que si on prend la loi Kouchner, le consentement, c'est pas ça. Le consentement, c'est un droit du patient. Dire oui ou dire non, il n'y a pas une des deux positions qui est meilleure. La vraie position qui soit bonne, c'est celle qui correspond à la personne concernée.
Il y a 3 ans, il y a eu beaucoup de dénonciations sur les réseaux sociaux de ce qu'on a appelé les violences gynécologiques et obstétricales. Est-ce que vous avez vu les choses changer depuis et comment?
Ah oui, les choses ont vraiment bougé. Je pense que s'il y a bien un avantage quand on prend du recul par rapport à ce débat qui a été très intense et parfois aussi violent que ce qui était dénoncé, c'est de voir justement comment ça a pu initier des mises en mouvement qu'on n'aurait pas eues sans ce débat-là.
Pourquoi ce débat, il a été si virulent et si violent de tous les côtés?
Si je pars du côté des femmes, on a vu des femmes qui créent une dynamique de parole de femmes, l'idée n'étant pas, dans un premier temps, de construire des propositions pour les professionnels, l'idée étant de raconter ce qu'elles avaient vécu. Et donc, il y a eu une émergence de témoignages au même endroit, dans un temps finalement assez court. C'est Paye ton utérus. Donc, c'est autour des années 2015-2016.
Hashtag qui émerge à ce moment-là sur Twitter.
Voilà. Et là où on commence à avoir vraiment des témoignages de choses très simples, entre guillemets, qu'on n'avait jamais vues projetées comme ça dans l'espace public. Et du coup, ça a été, je pense, pour la profession, une claque, quoi. Une claque majeure. Parce qu'en fait, c'est une profession qui se construit à juste titre, hein, comme toute la médecine, sur la vocation, sur le fait de faire le bien. Et voilà que ce qui leur était retourné, c'était que c'était pas adapté aux femmes qui s'exprimaient, donc à certaines femmes.
Est-ce qu'aujourd'hui, tout ça a été, entre guillemets, digéré et va vers plus de bientraitance? Est-ce qu'aujourd'hui, le débat est apaisé et porte ses fruits déjà?
Digérer, je ne crois pas encore. Hein. Il va falloir encore un petit moment. Moi, j'interviens vraiment beaucoup auprès des professionnels. Et très souvent, j'entends « Oui, mais ce mot, violence obstétricale, il ne faut pas l'utiliser. C'est comme violence conjugale. Ça veut dire qu'on fait des violences volontaires. » Donc, on voit bien que ce n'est pas digéré. Par contre, je pense qu'on est en train d'aller vers l'apaisement. Déjà parce qu'on a multiplié les collaborations et que les gens qui travaillent avec nous, ils veulent bien que c'est constructif. Et puis parce qu'on a développé, en tout cas au CIAN, Un dialogue qui se veut ferme, sans complaisance, mais qui vise vraiment à construire quelque chose de neuf. Nous, notre objectif, c'est que ça soit gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'il faut que les femmes s'y retrouvent, les couples s'y retrouvent, et il faut que les soignants s'y retrouvent. Et dernièrement, j'ai fait une intervention à Caen, et à la fin, il y a un jeune obstétricien qui est venu me voir et qui m'a dit « En fait, vous m'avez fait du bien. » Et moi, je trouve ça super. Parce que s'il a pu avancer dans sa réflexion, mais sans se sentir pressuré, et sortir de là en se disant « Mais qu'est-ce que je dois faire ?» S'il sort en se disant « Je peux faire bien et je me sens bien dans ce qu'on m'a dit », voilà, c'est possible. Donc oui, je pense qu'on va vers l'apaisement. On n'y est pas encore.
Oui. Je trouve qu'il y a certaines phrases, c'est un peu culpabilisant et je pense que c'est pas le but de ce qu'elle voulait faire passer. Mais par exemple, la phrase « S'il vous plaît, ne me criez pas dessus », je pense que, enfin, elle est super forte et on se dit, enfin, on est des si mauvais soignants que ça. Je pense que ça nous remet en question nous, mais en fait d'une manière très très brutale. Et du coup, je pense qu'on a des fois du mal à l'accueillir correctement aussi.
Donc, je m'appelle Léa, j'ai 22 ans, je suis étudiante sage-femme en 4e année à Lyon. Et voilà, j'ai eu la chance d'aller sur plein de terrains de stage différents.
Est-ce que lors de vos stages, il y a des pratiques, des gestes qui vous ont heurté ?
Oui, la première, c'était dans un contexte de maternité, une femme qui avait accouché. On soupçonnait une infection de l'utérus, on appelle ça l'endométrite. Donc on parlait de ça au staff, c'est la réunion du matin. Le gynécologue a voulu se faire son idée tout de suite, donc il est allé dans la chambre de cette patiente, qui était en chambre double. Je l'ai suivi, et en fait il est rentré dans la chambre de la patiente sans lui expliquer ce qu'il allait faire. Il a enlevé le drap, il a pris un gant, il a juste dit « je vais vous examiner ». Et en fait au moment de baisser sa culotte, il a dit « ah, ça pue l'endométrite ». Et il est parti, il a laissé la porte ouverte avec la patiente qui était en chambre double, culotte baissée, voilà, il est parti sans rien lui expliquer. Ça, c'était un de mes premiers stages et ça m'a énormément choquée. Donc voilà, je suis restée un petit peu avec la patiente, mais je savais pas trop quoi lui dire. Et le dernier, c'était aux urgences obstétricales cette fois. C'est une patiente qui se présentait pour des saignements. Et elle était enceinte bientôt à terme. Et donc moi, je l'ai accueillie et il fallait faire une échographie endovaginale, donc par le vagin. Et ça, c'est quelque chose que je ne savais pas encore faire à cette époque et que je n'aurais pas fait de toute façon toute seule. Donc j'ai demandé à l'obstétricien de venir. Donc je n'ai pas assisté à la scène, mais j'ai retrouvé la patiente en pleurs et même en état de choc. Et elle m'a raconté que l'obstétricien était arrivé, qu'il avait pris la sonde, qu'il lui avait enfoncé dans le vagin sans lui expliquer quoi que ce soit, qu'il lui avait dit « il y a un problème » et il est parti, sans lui dire si son bébé était vivant, enfin ce qui se passait. Et je l'ai retrouvé vraiment dans un état, j'avais jamais vu quelqu'un aussi choqué.
Il y a 3 ans, il y a eu beaucoup de dénonciations autour des violences gynécologiques et obstétricales, notamment sur Twitter. Est-ce que vous pensez que le fait que cette parole-là, elle ait existé, elle se soit libérée, ça change votre manière d'aborder votre futur métier ?
Oui, je pense, parce que c'est comme pour tout. Quand la parole n'est pas libérée, il y a des actions beaucoup plus permissives que les femmes osent en parler. Je pense et j'espère que ça va forcer les professionnels à être encore plus bienveillants et dans l'échange. Et j'espère, moi, en tant qu'étudiante maintenant et sage-femme plus tard, toujours pouvoir demander l'avis et l'accord de la patiente avant de faire quoi que ce soit. C'est vrai que tous ces témoignages que j'ai lus ou entendus m'ont donné encore plus envie de ne pas faire vivre ça aux femmes que j'accompagnerai.
Merci beaucoup pour cette séance. C'était très, très, très riche. J'espère qu'il en est de même pour vous. En tout cas, pour moi, c'était très intéressant.
Interception. Sur France Inter.
Depuis la publication en 2018 du rapport du Haut Conseil à l'égalité, les pratiques ont quelque peu évolué. Le Collège national des gynécologues et obstétriciens français a mis en place un label facultatif, le label Maternis, pour distinguer les maternités bien traitantes.
Je n'ai rien trouvé de mieux que de faire quelque chose de facultatif.
Nous retrouvons Israël Nizan, le président de ce collège, avec Faustine Calmel.
C'est-à-dire de dire aux maternités de France, 489, est-ce que vous voulez bien mettre la bientraitance au centre de vos préoccupations et avoir un projet de bientraitance ? La labellisation fonctionne de la manière suivante. On regarde un certain nombre de paramètres publics de ces maternités. Taux d'épisiotomie, taux de césarienne, taux d'extraction instrumentale. Quand une maternité est dans les clous, sur le plan des pratiques médicales. Il faut encore qu'elle accepte d'être tensée par l'avis des femmes. Parce que dans le label, c'est pas les médecins ou les sages-femmes qui donnent leur avis sur la bientraitance, c'est les femmes elles-mêmes. C'est-à-dire qu'elles sont contactées par l'application 3 jours après leur accouchement et 3 mois après, et on leur pose une dizaine de questions, comment ça s'est passé. Donc on mesure pour chaque maternité ce qu'on pourrait appeler un indice de satisfaction sur le domaine de la bientraitance, ce qui n'avait pas été fait jusqu'à présent. Le Collège national analyse les résultats des maternités volontaires, renvoie une image de ce qui se passe au chef de service, et si ça va pas, vraiment pas, dans une maternité, essaye de voir avec lui comment on pourrait améliorer les choses.
Certains ou certaines reprochent à ce label de pas exiger, par exemple, de diminution du taux d'épisiotomie ou du taux de césarienne. En gros, de pas aller suffisamment loin. Vous dites que ça va venir, que c'est une question de moyens?
Ça va venir, je vais vous dire, mesurer et montrer publiquement, c'est changer les pratiques. C'est le système du name and shame. Donc, on va changer les pratiques sur le taux de césarienne, sur le taux d'extraction instrumentale. Vous savez que notre pays est un des seuls pays à avoir 20% de taux de césarienne depuis 20 ans. Il n'a pas bougé, notre taux de césarienne. Mais il y a des maternités qui sont à 45, 50, 60%. La patiente qui rentre dans une telle maternité, elle a le droit de savoir ça. Et donc, le label l'informe. Et nous, on ne va pas labelliser des maternités qui ont des taux trop importants.
Nous sommes de retour à la maternité du Belvédère, près de Rouen. La maternité qui a obtenu, il y a 1 an, le label Maternis, mis en place par le Collège des gynécologues et obstétriciens de France. Les équipes soignantes s'en emparent peu à peu. Nous allons à leur rencontre pour comprendre ce que cela change dans leur quotidien.
Venez, madame. J'ai besoin de votre taille, madame.
Le 72.
Êtes-vous fumeuse ou ancien fumeur?
Non.
Je vais vous donner des papiers, je vais vous expliquer à quoi ça correspond. Voilà. On a été labellisé l'année dernière pour la bientraitance envers maman et bébé. Donc, c'est des vidéos qui expliquent le déroulé de la grossesse, l'accouchement, le suivi après. Oui. Je vous laisse aller dans la salle d'attente. Ma collègue sage-femme vous appelle dès que c'est votre tour.
D'accord.
Bonne journée, madame.
Merci à vous aussi.
Moi, c'est Mathilde, je suis sage-femme en salle de naissance.
Est-ce que ce label Maternis, qui a été attribué il y a à peu près 1 an à la maternité, il a changé quelque chose pour vous dans votre quotidien?
Il y a quelques axes d'amélioration, notamment pendant la grossesse. Il y a ce qu'on appelle un entretien prénatal précoce, qui n'était pas obligatoire jusqu'à fin avril 2020, si je ne dis pas de bêtises, oui, qui est obligatoire depuis le 1er mai. C'est un entretien qui n'est pas médical à proprement dit, mais on aborde tout l'aspect psychosocial de la grossesse. Et ça permet de, en général de dépister s'il y a des soucis sur le plan social, sur le plan psychologique, s'il y a des angoisses particulières pour pouvoir orienter ces patientes. Aussi leur proposer les différents types de préparation à la naissance. Je pense que les patientes, elles écrivent un projet de naissance sans savoir véritablement ce qui se passe au sein d'une maternité. Et en fait, je pense que ça les rassure de savoir que ce qu'elles ont envie dans leur projet, finalement, c'est déjà dans les pratiques de la maternité où elles viennent, en fait.
On y va? Allez, venez avec moi. Asseyez-vous. Dernière consultation?
Oui.
Tout va bien?
Ça va.
Le bébé bouge bien?
Il bouge, ça bouge, pas de soucis.
Envie d'accoucher?
Parce que maintenant, oui.
On arrive au dernier.
On voit le bout du tunnel.
Ok. Patrick Fournet, je suis gynécologue obstétricien au centre hospitalier du Belvédère, depuis 30 ans dans cette maternité.
Est-ce qu'il y a des freins ou des blocages à cette bientraitance, à faire vraiment attention à cette question des violences gynécologiques obstétricales?
Non. S'il y avait des freins à être bien traitant, nous ne serions ni médecin ni sage-femme, on n'aurait pas choisi ce métier-là.
Mais la question des moyens, ça n'en est pas un de frein?
Alors, les moyens rendent difficile l'idéal que devrait être notre prise en charge. L'hôpital français est en difficulté, les maternités françaises sont en difficulté, et ceci est un frein à la mise en place, mais heureusement que les agents arrivent à passer au-delà de ces difficultés pour donner le meilleur d'eux-mêmes, pour diffuser, et on va aller tout doucement, progressivement pour la diffusion de ce label. C'est pas du jour au lendemain, c'est pas parce qu'on est labellisé qu'on répond à tous les critères. Chaque professionnel n'est pas parfait, mais stigmatiser une profession pour quelques patientes qui ont été mal prises et qu'on peut le regretter, et ces patientes ont parfois du mal à se reconstruire, je pense que c'est quelque chose de délicat et de difficile, qui a été en tout cas difficilement vécu personnellement, mais difficilement vécu par les soignants qui, tous les jours, toutes les nuits, sont au chevet de la femme enceinte, de son bébé, du papa et de la famille.
Docteur Fournet, quels sont, un an après l'obtention de ce label, les axes d'amélioration que vous identifiez ?
Alors, il y a un chapitre qu'il faudra qu'on regarde, c'est la pertinence des soins. Notre taux d'épisiotomie a baissé. Nous mettons en place une consultation sur les nausées et vomissements de la grossesse. Il y a des femmes qui sont vraiment dans la difficulté et qui vont être douloureuses pendant toute leur grossesse. Il faut une réflexion sur la prise en charge de l'accouchement, l'utilisation de médicaments qui ne sont peut-être parfois pas utiles. Je parle de l'ocytocine. Expliquer aux femmes que certains gestes sont indispensables, la délivrance dirigée, diminuer le taux d'hémorragie de la délivrance. Une grande nécessité de transparence, d'explication pour que les femmes puissent adhérer au suivi qui leur est proposé, afin de créer une famille qui est une des beautés de notre métier tout de même. C'est un métier de médecin, mais de médecin joyeux dans la grande majorité des prises en charge. Bien sûr, il y a des grossesses pathologiques. On les prend en charge au même titre et on essaie d'aider du mieux que l'on peut toutes ces femmes.
Ce label Maternis, mis en place par le Collège des gynécologues et obstétriciens, est une des seules avancées concrètes depuis juin 2018, lors de la remise du rapport du Haut Conseil à l'égalité. Celle qui était alors secrétaire d'État en charge de l'égalité femmes-hommes, Marlène Schiappa, avait annoncé la création d'un groupe de travail. Il ne s'est jamais réuni et le label lui-même est contesté par les rapporteurs du texte comme Margot Collet.
Ce qu'on observe dans beaucoup de professions, c'est que la bonne volonté, la mise en avant de bonnes pratiques, c'est souvent une première étape. Mais l'idée là, c'est pas seulement de mettre en avant des bons élèves, c'est de faire appliquer la loi, les recommandations de santé publique qui existent. Je pense au taux de césarienne, par exemple. En France, le taux moyen de césarienne est 2 fois plus élevé que les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, ce que prévoit le label Maternis, par exemple, c'est simplement de publier les taux maternité par maternité de césarienne, d'épisiotomie. On est dans une politique de transparence, mais pas tellement dans l'application, la mise en œuvre de choses qu'on sait déjà. Autre exemple, comme l'explique d'ailleurs très bien Marie-Hélène Lahaye, qui est une des lanceuses d'alerte sur ce sujet-là, le label exige qu'en cas d'intervention urgente, on puisse un peu avoir une forme de débrief avant la sortie de la maternité des femmes. On pressent qu'on puisse penser à une épisiotomie pratiquée sans le consentement de la patiente. Sauf que ça, c'est contraire à la loi qui existe sur le consentement libre et éclairé des patientes. Donc c'est pas en indiquant juste à la sortie de la maternité aux patientes qu'on se met en conformité avec la loi Kouchner sur le consentement libre et éclairé des patients.
Si je vous entends bien, finalement, depuis 2 ans, il n'y a pas énormément de choses qui ont changé. Pourquoi est-ce que c'est si long ? Est-ce qu'il y a des blocages quelque part ?
Je pense que c'est dur, que effectivement les choses ont peu changé du côté des praticiens, du côté aussi prise en charge de cette question d'un point de vue politique, administratif. Je pense par contre qu'on est en train d'assister à une certaine révolution du côté des femmes, du côté des patientes, qui s'informent, qui maintenant n'acceptent plus certains comportements. Ça ne veut pas dire qu'il y aura plus de signalements, de dénonciations, mais elles vont changer de praticiens. Par contre, on observe un peu plus de réticence du côté des médecins et des syndicats de professionnels. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des médecins qui sont hyper engagés sur cette question-là, qui ont envie que les choses bougent. Mais je pense que c'est aussi au niveau des instances représentatives, décideuses, qui ont aussi le contact avec les instances politiques, qui sont encore dans une sorte d'immobilisme sur cette question-là et qui ont du mal à entendre le besoin et la demande de changement et d'évolution des pratiques.
Prenez plein d'air et allez-y. Poussez très fort vers le bas. Allez-y. Allez, fort et longtemps.
De toute
allez,
vos forces.
De toute vos forces.
Allez, allez, allez,
allez-y,
allez,
fort et longtemps.
C'est bien ce que vous faites.
On va pousser sur le S maintenant.
Des S.
Comme ça. Allez, fort. Allez, fort. Comme ça.
Allez.
L'accouchement s'est bien passé, c'est une fille, elle s'appelle Anaëlle, elle se porte bien, tout comme sa maman. Comment finir avec les violences obstétricales? C'était un reportage de Faustine Calmel et Nicolas Mathias, déjà disponible à la réécoute sur franceinter.fr. Violaine Ballet a réalisé cette émission, assistée de Martine Messonnier. Mixage d'Ofar Guéride. Dans un instant, on retrouve Eva Bester et son invitée, la chanteuse Yel. Ce sera remède à la mélancolie.